France Musique.
Saskia Deville, la matinale, France Musique.
Mon invité est né à Lyon en 1957. Dès l'âge de 12 ans, il vit dans l'entourage d'Olivier Messiaen, dont il est l'un des interprètes les plus recherchés. Il complète sa formation auprès de Gueorgui Kurtak avant d'être choisi à 19 ans par Pierre Boulez comme pianiste soliste de l'ensemble intercontemporain. Passionné par la musique de son temps, il crée des œuvres de George Benjamin, Gueorgui Ligeti ou encore Marco Stropa, sculpteur de son, chercheur infatigable, grand pianiste dans tous les répertoires. Mon invité s'est aussi formidablement bien parlé de la musique que des œuvres qu'il interprète. Bonjour Pierre-Laurent Aymard.
Bonjour.
Nous sommes le 9 février, il y a 132 ans aujourd'hui, en 1885, naissait un compositeur que vous connaissez bien pour l'avoir enregistré, l'un des précurseurs de la musique contemporaine. Il s'est formé auprès de Schönberg, d'Arnold Schönberg. Il est avec Anton Webern à l'origine d'un mouvement essentiel, la seconde école de Vienne, une petite idée, Pierre-Laurent Aymard. C'est les devinettes de grand matin.
Voilà, oui, non, j'ai une petite idée, en effet.
Alban Berg, vous avez en 2011 enregistré sa sonate, opus 1, que je vous propose d'écouter à 8h06 sur France Musique. Quelques notes de la sonate opus 1 d'Alban Berg. Sous vos doigts, Pierre-Laurent Aymard, un mot sur Alban Berg, ce matin, sur France Musique.
Toujours fascinant, parce que c'était un homme d'un contrôle incroyable, mais en même temps, qui avait une charge émotionnelle considérable. Donc, c'est la plus belle démonstration que les sentiments et la réflexion peuvent faire un si bon ménage.
On va rester ensemble, Pierre-Laurent Humard, jusqu'à 9h. Mais avant cela, à 8h10, on retrouve Antoine Pecker pour la chronique Culture Éco. Bonjour Antoine Pecker.
Bonjour Saskia, bonjour à tous.
Jean-Luc Mélenchon joue ces temps-ci la carte culturelle. Il était au Festival d'Angoulême et a annoncé quelques propositions ce week-end à Lyon. Comment se positionne-t-il sur ce secteur ?
À Lyon, Jean-Luc Mélenchon a commencé par tacler Emmanuel Macron sur ce terrain en moquant sa proposition de chèque culture de 500 euros pour les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans. Une proposition qu'Emmanuel Macron reprend d'ailleurs de Matteo Renzi. Avant de distribuer des chèques pour consommer de la culture, il faut d'abord la produire. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon. Et pour la produire, le candidat de la France Insoumise propose un budget du ministère de la Culture porté à 1% du PIB et un nouveau statut des artistes au-delà de l'intermittence du spectacle pour lutter contre la précarité du secteur. Deux propositions également au programme de Benoît Hamon. Mais nous avons une petite antériorité. C'est ce que m'a précisé immédiatement Roger Tropeano, qui avec Daniel Attala est en charge du volet culture dans le mouvement de la France Insoumise. Lorsque je les ai rencontrés en début de semaine, dans un café du 18e arrondissement, ils ont tout de suite tiqué sur l'objet de ma chronique, à savoir l'économie de la culture. Pour eux, il faut s'opposer à la justification économique de la culture et prendre ses distances avec le rapport d'Aurélie Filippetti sur l'impact économique de la culture qui avait été réalisé, je le rappelle, conjointement en 2014 par Bercy et la Rue de Valois. Le mouvement de la France Insoumise attaque, on le sait, l'oligarchie et notamment sur le terrain culturel. Pour eux, il est nécessaire d'être plus strict sur le mécénat et les niches fiscales, comme vient le rappeler actuellement, selon eux, le rôle joué par Marc Ladret de la Cherrière, le patron de Fimalac, grand mécène de la culture, notamment du Louvre, et impliqué dans le Penelope Gate à travers la Revue des Deux Mondes. Les fondations d'entreprise ne doivent pas décider à la place de l'État en matière culturelle. Daniel Attala souligne ainsi le don d'œuvres d'entreprise surévalué par les ventes aux enchères. En ligne de mire, la financiarisation du marché de l'art devenu de plus en plus spéculatif. C'est une alliance à l'époque entre l'UMP et le PS qui a permis la construction de la fondation Vuitton, rappellent les conseillers culture de Jean-Luc Mélenchon. Roger Tropeano va même plus loin en dénonçant la collusion des grandes structures culturelles avec l'oligarchie. Pour preuve, selon lui, le poste de président du conseil d'administration de la Philharmonie de Paris, qui a été attribué sur nomination de François Hollande à Patricia Barbizet, bras droit de François Pinault, et qui est depuis le 1er janvier présidente du siècle, le fameux cercle de réseau parisien. Sur l'affaire qui oppose la CGT au Syndéac à propos des centres dramatiques, les conseillers de Jean-Luc Mélenchon vont jusqu'à craindre une privatisation des structures. On touche peut-être là à la limite du discours. S'il dénonce avec beaucoup de justesse souvent les excès d'un système culturel flirtant de plus en plus avec les intérêts privés, on regrette que le mouvement de la France Insoumise ne soit jamais critique à l'encontre de certaines dérives syndicales du secteur. Ainsi, quand Jean-Luc Mélenchon se moque de la proposition d'Emmanuel Macron de vouloir ouvrir les bibliothèques le dimanche, lui reprochant de vouloir faire travailler les bibliothécaires ce jour de la semaine, les musées sont bien ouverts le dimanche et rencontrent, eux, un énorme succès. La radicalité de la France Insoumise gagnerait en force en étant moins soumise à quelques intérêts minoritaires d'ailleurs au sein du mouvement, à suivre donc avec à la fin du mois la sortie d'un livret thématique culture et en mars un grand rendez-vous prévu entre Jean-Luc Mélenchon et des artistes.
Merci Antoine Pecker. On réécoute cette chronique sur francemusique.fr et puis on vous retrouve demain.
À demain.
Saskia Deville, la matinale, France Musique.
Le prélude en ut majeur, BWV 846, en extrait du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach sous les doigts de Pierre-Laurent Aymard, qui est notre invité ce matin sur France Musique. Vous venez, Pierre-Laurent Aymard, de recevoir le prix de musique Ernst von Siemens de la Fondation pour la musique du même nom, pour, je cite, « toute une vie au service de la musique ». La musique, c'est toute votre vie, elle prend toute la place, Pierre-Laurent Aymard.
Non, elle est loin de prendre toute la place, Dieu merci, comme ça elle peut se nourrir d'autres...
Et de quoi se nourrit,
et surtout d'une part de la vie elle-même, bien sûr. C'est ce qui lui donne un peu de substance et un peu de sens, je crois. Non, c'est en effet une distinction qui m'a infiniment touché, parce que je crois que si on s'intéresse à la dimension créatrice dans la musique, il peut pas y avoir de plus belle distinction, puisqu'elle est donnée par des experts qui sont très indépendants, qui sont des hommes, des personnes de conscience, qui réfléchissent à ce qu'ils font, et ça n'est pas du tout sous des pressions du marché, d'institutions.
Qu'est-ce qu'on trouve dans ce jury, Pierre-Laurent Aymard ?
Des compositeurs, des grands directeurs artistiques, grands directeurs de salle, disons des personnes de réflexion, je dirais. Et donc c'est un grand encouragement. Je l'ai appris il y a un peu plus d'un an, donc je dis pas que pour moi c'est du réchauffé, mais disons que l'émotion n'est pas la même. Mais disons que dans un monde, c'est vrai, où il y a beaucoup de récompenses qui sont des illusions, ou qui sont manipulées, voire totalement artificielles, ça fait partie de celles qui donnent beaucoup d'encouragement.
Qu'est-ce que ça implique de recevoir un prix comme ça, Pierre-Laurent Aymard ?
Je crois de continuer à faire ce que l'on fait, de ne pas poser sa besace, mais de continuer d'être un saltimbanque qui essaye d'aller là où il est intéressant d'aller, en fonction de l'actualité. Je crois que si on s'intéresse à la création, elle est totalement dépendante du monde dans lequel on vit. Notre monde bouge tellement qu'il faut garder les yeux très ouverts aujourd'hui et l'attention en éveil pour ne pas tomber dans son propre académisme.
Et qu'est-ce que vous faites justement pour garder l'attention en éveil ? Qu'est-ce que vous faites par exemple quand vous ne jouez pas, Pierre-Laurent Aymard ?
Oh, comme tout le monde, je parle avec des gens, j'essaie de lire les bons journaux.
C'est quoi un bon journal ?
Et de mener la réflexion adéquate et surtout d'appliquer à mon petit domaine d'action ce qui me semble être adéquat dans des périodes aussi mouvementées.
Vous êtes pianiste, vous avez découvert le piano dans un grenier en Savoie, vous aviez 5 ans. Racontez-nous.
Oh, chez un aïeul qui était savoyard, donc qui avait été chef d'un orchestre de mandoline amateur. Et je trouvais tous ces instruments évidemment très attractifs. Il y en avait de superbes avec des décorations en nacre. Et puis il se trouve qu'il y avait aussi un vieux piano droit. Et là, c'était... J'ai opté pour le piano plutôt que pour la mandoline. Ne me demandez pas pourquoi.
Vous vous rappelez de ce moment où vous avez posé pour la première fois un doigt sur le clavier ?
Oui, je m'en rappelle très fortement à tout point de vue, même physiquement. C'est resté.
Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
La même chose que je ressens lorsque je pose mes mains sur un instrument de nos jours.
Et
c'est là que j'ai envie d'être.
Enfant, c'est vous qui tiriez votre père au concert de musique contemporaine. Ça, c'est quand même assez étonnant. Je crois que lui était fan d'opéra.
Absolument, et mes parents fans de culture, comme on dit ou comme on disait à l'époque, c'est donc eux qui m'emmenaient à beaucoup d'endroits. Mais c'est vrai que pour le contemporain, là, c'était plutôt moi qui entraînait la famille vers l'avant.
C'est venu comment, ça ? C'est étonnant.
À cause d'une bonne éducation, parce que mon premier professeur était quelqu'un de très ouvert d'esprit. Elle considérait pas que la musique classique était morte à la Première Guerre mondiale, mais qu'il y avait un nouveau chapitre qui s'ouvrait. Donc, elle a décidé d'éduquer ses élèves en ayant l'esprit ouvert. Donc, pour moi, il était naturel que... Les styles de nouvelle musique de l'époque, qui étaient Boulez et Stockhausen, qui sont grands classiques nos jours, est une place au même titre et avec les mêmes droits que des musiques du 19e ou du 18e siècle.
Qu'est-ce qui vous attirait déjà dans cette musique-là, dans ce répertoire-là, Pierre-Laurent Aymard ?
Je peux pas vous le dire, c'était immédiat. Comme toujours, certaines œuvres m'attiraient de façon très passionnelle, enfin irrémédiable, je dirais, et d'autres pas du tout, ou beaucoup moins. Mais il y avait vraiment une relation très forte qui s'est établie tout de suite.
Parce qu'il y a un passage quand même entre le fait d'en écouter et puis de la pratiquer, de la jouer,
oui,
cette musique.
C'est-à-dire, ce qui m'a frappé et même indigné, vous savez, quand on est jeune, on s'indigne facilement, c'était de voir le compartimentage social pour l'écoute de ces différentes musiques. Quand j'allais écouter Rubinstein le dimanche jouer des musiques convenables pour un public convenable, il y avait un certain type de public, beaucoup du reste, et quand j'allais écouter les dernières créations de théâtre musical polonais complètement jeté d'un autre côté, là il y avait un public qui était plus clairsemé mais qui était en fait peut-être beaucoup plus passionné encore et beaucoup plus réactif. Et je me suis dit, pourquoi? Comment ça se fait? Faut faire quelque chose. Et je me suis dit, si un jour j'ai un rôle à jouer au milieu de tout ça, je vais essayer de travailler dans ce sens-là.
C'est différent aujourd'hui, Pierre-Laurent Aymard?
Ben, j'ai été fidèle au petit garçon que j'étais de ce point de vue-là, en tout cas.
Le prix de musique Ernst von Siemens loue également les liens que vous avez noués avec tous ces compositeurs contemporains comme Marco Stoppa qu'on écoutait à l'instant. Vous écoutez vous au piano accompagné par l'orchestre philharmonique de Radio France. C'est un disque qui est sorti en 2016. Comment est-ce que vous sélectionnez, comment est-ce que vous choisissez ces compositeurs avec qui vous collaborez, Pierre-Laurent Aymard?
Oh, c'est parfois l'inverse, c'est la vie qui décide des choses. Vous savez, on fait des choix par intuition, par conviction, et puis ces choix se confirment parce que il y a des relations qui se tissent. Tout simplement, on s'aperçoit qu'il y a des personnes dont on joue bien la musique, il y en a d'autres à qui on donne pas satisfaction, il y en a certains qu'on comprend.
Qu'est-ce que vous partagez par exemple avec Marco Stoppa qu'on écoutait?
Marco, j'ai toujours été fasciné par son esprit de recherche, par la musique inouïe qu'il créait, par la profondeur et la richesse de sa culture et de sa réflexion. C'était une des personnes dans ma génération qui m'ont beaucoup guidé. Si un compositeur est vraiment créatif, il pense différemment. C'est un être qui n'est pas normal, qui n'est pas formaté comme les autres. Donc, bien sûr qu'il attire d'une façon plus forte, en tout cas c'est ce que je ressens personnellement, qui vous éclaire, qui vous fait découvrir des territoires. Ce sont aussi souvent des personnes qui ont une qualité de réflexion qui est supérieure, qui est, donc qui inspire, bien sûr.
Qu'est-ce que, enfin, vous avez évidemment passé 19 ans à l'ensemble intercontemporain. Vous l'avez quitté en 1995, si je ne dis pas de bêtises. Vous y êtes resté pendant 18 ans. Quel a été là aussi, vous avez eu l'occasion évidemment de partager des créations avec des compositeurs de notre temps. Quel est peut-être votre meilleur souvenir de cette période-là, Pierre-Laurent Aimard?
Oh, il y a tellement de souvenirs extraordinaires. Je sais pas si je peux en sélectionner un seul. Le plus grand souvenir, c'est peut-être un souvenir sur la longueur, c'est la gestation et la création de Répond, et d'avoir vu un créateur de la richesse de Pierre Boulez mener sa réflexion, faire des essais, c'est-à-dire d'avoir été les personnes qui ont joué des exemples musicaux avec lesquels il faisait ses tests technologiques à l'IRCAM, et puis peu à peu d'avoir vu sa pensée et son organisation se préciser en fonction de ses choix, et peu à peu de voir la naissance d'une œuvre qui s'est développée au fur et à mesure des années, quand il s'agissait d'une œuvre presque tentaculaire aussi, qui incorporait autant de paramètres, autant de dimensions, c'était bien sûr fascinant. Mais en fait, la raison pour laquelle je suis resté si longtemps, je ne suis pas le seul, c'est qu'il se passait tellement de choses variées dans cet ensemble. On pouvait expérimenter des situations extrêmement différentes. Et pour le jeune homme que j'étais, c'était un lieu de formation prodigieux. Pour moi, je ne pouvais pas rêver un complément de formation aussi riche et multiple que celui-là.
Comment est-ce que vous définiriez en quelques mots, Pierre-Laurent Aimard, votre mission d'interprète?
Ben, je crois que les interprètes se doivent d'absorber un peu, d'intégrer le travail des créateurs et de le faire partager. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors, ça concerne les créateurs d'aujourd'hui en premier lieu, c'était une évidence, mais aussi, bien sûr, ceux de notre histoire. Et notamment, il s'agit de faire remonter à la surface des pans de répertoire qui sont laissés à certains moments de notre histoire et qu'il est utile de faire revenir à la surface parce qu'ils peuvent éclairer une génération ou une société musicale à un moment donné.
Un extrait de Shadowlines de George Benjamin sous vos doigts, Pierre-Laurent Aymard, sur France Musique à 8h30. Pierre-Laurent Aymard, vous avez pendant 7 ans jusqu'à l'an dernier assuré la direction artistique du festival d'Oldbro dans le Suffolk, c'est dans le sud-est de l'Angleterre, festival fondé par Benjamin Britten, auquel vous avez insufflé un vent de musique contemporaine. Un grand festival de musique d'aujourd'hui démarre demain, c'est présence ici à la Maison de la Radio à Paris. On se d'ailleurs demain la compositrice qui est à l'honneur de cette nouvelle édition, je l'imagine que vous connaissez, la finlandaise Kaija Saariaho, un festival de musique contemporaine pour qui et pourquoi. Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Saskia, bonjour Pierre-Laurent Aymard.
Vous avez interrogé les responsables de plusieurs festivals dédiés à la création musicale.
Oui, à commencer par ici, présence à la Maison de la Radio, 10 jours, 18 concerts, c'est la 27e édition de ce festival créé par Claude Samuel. À l'époque, il était directeur de la musique à Radio France. Alors depuis, le moteur de présence c'est le même, avec le souci de ne pas s'adresser qu'à un petit cercle de spectateurs. Bruno Béringuet est le directeur artistique de la manifestation.
Nous, on veut le public le plus large possible, ça c'est sûr. À l'origine, c'est vrai, c'est un public dit spécialiste, en fait, qui suit les catalogues ou les créations les uns des autres, ou qui suit peut-être un instrumentiste. Après, il y a aussi la curiosité, je crois que le public est curieux de nature. C'est à nous aussi d'inciter le public à pousser les portes de la radio pour venir entendre de nouvelles choses, de nouveaux interprètes, et d'ouvrir ses oreilles aux sonorités inouïes de la création, en fait.
Et puis inciter le public, mais comment faire, Jean-Baptiste ?
Par la pédagogie, par l'éducation. Année après année, le public devient plus enclin à écouter, à découvrir la création musicale. C'est le cas par exemple du public alsacien à Musica. Musica, c'est le festival de musique contemporaine de Strasbourg. Il existe depuis 1982. Et pour son directeur Jean-Minique Marco, en 35 ans, oui, les spectateurs de Musica sont devenus de réels férus de musique contemporaine.
Le public, au départ, était souvent un public de néophytes. Nous n'avons pas un public comme à Paris, avec beaucoup de musicologues, de compositeurs. C'était un public plutôt généraliste. Et ce public, au fil des années, est devenu un public de mélomanes. Nous avons en moyenne entre 15 et 16 000 entrées par an. Et c'est vraiment un public qui vient par plaisir de curiosité de la découverte. Souvent, ils ne connaissent ni les interprètes, ni les œuvres. Un public qui suit avec beaucoup de fidélité le festival, un public qui se rajeunit. C'est un public qui fait confiance.
La confiance du public, on la trouve aussi dans un autre festival de musique contemporaine, c'est Ars Musica à Bruxelles.
Oui, Ars Musica, c'est un des autres grands événements incontournables européens dédiés à la musique d'aujourd'hui. Tous ces festivals sont nés à peu près à la même époque, d'ailleurs sur une décennie. Lui est né en 1989. Alors il y a une saison musicale et un festival qui lui a lieu désormais tous les deux ans. La dernière édition, c'était il y a quelques mois, en novembre. Et les auditeurs de France Musique connaissent bien son directeur, puisqu'il s'agit du compositeur Bruno Lothor. Chaque lundi à 23h, l'émission Tapage Nocturne, c'est lui. Festival de musique contemporaine, disiez-vous, Saskia? Oui et non, nous répond Bruno de sa belle voix de basse.
Nous, c'est un festival de création. On a un peu retiré volontairement le mot musique contemporaine, qui est quand même très connoté. Donc on a vraiment voulu aller vers la création, et la création sous toutes ses formes et sous toutes ses formes esthétiques. C'est important d'avoir un festival complètement dédié à ça, et même un festival dédié à ça où on oublie presque que ce festival est dédié à ça. C'est-à-dire que le fait, justement, de faire des mélanges avec d'autres disciplines, avec la danse, avec le cinéma, avec le dessin, avec la bande dessinée, avec la sculpture, l'installation sonore, etc., je pense que ça permet au bout d'un moment d'oublier qu'on est vraiment pas seulement dans une spécificité musicale, mais d'une manière beaucoup plus large.
Et puis pour attirer le public, la question du tarif est également primordiale, Jean-Baptiste, pour les responsables de ces festivals de musique d'aujourd'hui.
Oui, 12 euros en moyenne à Ars Musica, de 6 à 22 euros à Strasbourg à Musica, avec un certain nombre de représentations gratuite. Alors justement, la gratuité, ça a longtemps été la règle ici à Radio France pour présence. Plus maintenant, ça fait grincer quelques dents. Michel Aurier, le directeur de la musique de Radio France, s'en explique.
C'est entre 5 et 15 euros. C'est des tarifs extrêmement modiques. C'est vrai qu'il y a eu pendant très longtemps une habitude de gratuité. La gratuité, elle entraîne un phénomène qui est pas très agréable à gérer quand même, qui est le fait que On délivre beaucoup de billets pour des gens qui ne viennent pas systématiquement, et ce qui occasionne des tas de problèmes à gérer après dans les salles, où on refuse à des gens de venir alors que finalement à l'arrivée il reste de la place. Il y a un acte d'engagement, même s'il est modique et symbolique, 5 euros c'est quand même symbolique, qui est nécessaire. Et puis pour montrer aussi qu'il y a un vrai public qui est accroché à l'existence de cette musique et qui vit avec elle. Et donc il y a, c'est vrai, une tarification, mais une tarification qui est moins chère qu'une place de cinéma dans les 80% de la fréquentation.
Voilà, présence, c'est ici, à la Maison de la Radio à Paris, à partir de demain jusqu'au 18 février, avec un invité d'honneur, la compositrice finlandaise Kaija Saariaho. Et tous les concerts sont diffusés sur France Musique.
Merci Jean-Baptiste Urbain, Kaija Saariaho, qui sera d'ailleurs notre invité, je le disais, demain matin dans la matinale. Pierre-Laurent Aymard, la programmation, la tarification de public sont des questions auxquelles vous avez été confronté pendant 9 ans lorsque vous étiez directeur artistique de ce festival d'Old Bra. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas en dirigeant ce célèbre festival anglais?
À être plus tolérant.
Envers.
Que j'étais pas trop profondément intolérant, mais parce que c'était un festival relativement conservateur pour un festival fondé par un compositeur, hein, vu la musique qu'écrivait Britten, très anglais, en fait, très tourné vers l'île. Et si j'ai été appelé là-bas, c'était évidemment pour tourner le festival vers le continent et remettre les pendules à l'heure quant au répertoire. Donc je ne me suis pas privé au niveau de ce que l'on appelle les musiques d'avant-garde, et je me suis pas privé pour travailler dans le sens de l'européanisation, excusez-moi, du festival. Le paradoxe, c'est que j'ai terminé ma tenorship, comme on dit, le week-end du Brexit. Voilà, qui est un week-end où j'avais, enfin, qui est une journée, le fameux vendredi, l'horrible vendredi 23 juin l'année dernière, où j'avais programmé des musiques de 14 compositeurs européens différents.
C'est quelque chose qui vous inquiète, ce que vous nous dites.
Bon, je ne suis pas le seul.
Il est 8h37 sur France Musique. Thank you.
Lorsque Ravel met en musique trois poèmes du Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand, nous pensons à ses lectures d'Edgar Poe traduit par Baudelaire et apprécions sa façon très personnelle d'aborder le fantastique, lui le maître de la rigueur, de la clarté et de la précision. Le chant tendre d'Ondine n'est pas celui d'un être de chair, mais d'une créature aquatique à la voix virginale et cristalline. Il entretient un rapport consubstantiel avec son accompagnement, ou plutôt son environnement aquatique.
C'est votre voix, Pierre-Laurent Aymard.
Je ne m'attendais pas à ça.
Oui, vous avez l'air très surpris. Du 10 au 12 février, la Fondation Louis Vuitton à Paris vous confie les clés d'un cycle de récital, de concerts commentés. Ces concerts commentés, ça a commencé très très tôt hein, dans votre carrière. Je crois qu'à 16 ans, vous en proposiez déjà, ou du moins des sortes de tirades à destination du public pour mieux partager ce que vous étiez en train de jouer sur scène.
Nous passons nos journées dans l'intimité de chefs-d'œuvre, donc c'est dommage de pas partager cette expérience. Je crois qu'en particulier quand on joue des répertoires qui sont pas des best-sellers, et c'était mon cas puisque j'ai joué beaucoup de musique contemporaine assez jeune déjà, on éprouve le besoin de faire tomber au moins certains malentendus.
Quels seraient ces malentendus, par exemple, Pierre-Laurent Aymard?
Ben, ceux qui naissent de tous les a priori, vous savez, qui font qu'on rejette a priori un mode d'expression pour de mauvaises raisons. Donc quand on est familier de ce mode d'expression, bien sûr qu'on a envie de le faire partager. C'est comme avec une langue étrangère, une langue parlée, qu'on rejette a priori parce qu'on n'y comprend rien. Et puis dont on découvre les richesses quand on en comprend le mode de fonctionnement peu à peu.
Il faut comprendre le mode de fonctionnement pour apprécier ?
Non, mais le fait de le comprendre permet de mieux apprécier.
Quel est le but, justement, de ces concerts commentés ? C'est saisir aussi une interprétation, peut-être ?
Dans le cas là, de la programmation de cette semaine, c'est différent. Il s'agit d'un essai, celui de faire une programmation musicale qui est en résonance avec une exposition.
Donc c'est l'exposition Tchoukine qui a lieu actuellement à la Fondation Vuitton.
Parce qu'en fait, la Fondation m'avait demandé de faire un projet pour eux, donc je leur ai dit que ce qui m'intéressait, c'était de faire un projet dans le cadre d'une de leurs expositions. Et ils m'ont proposé celle-ci, qui est une période qui me captive, et une...
J'imagine que vous avez visité l'exposition.
Pas encore.
Non, pas mais encore.
Je connais bien D'accord. les collections du musée Pouchkine et de l'Ermitage. C'est un échange, l'échange France-Russie de cette époque qui m'a toujours beaucoup captivé, sur lequel j'ai souvent travaillé dans les programmes, et ça m'intéressait de travailler ici. Mais naturellement, dans ce cas-là, c'est intéressant de prendre la parole pour expliquer la démarche qu'on a eue.
Alors peut-être pour nos auditeurs, on va expliquer très clairement de quoi il s'agit. Il y aura deux séances par jour, vendredi, samedi, dimanche, à midi et à 15h.
Voilà, et un concert le soir.
Et un concert le soir. Et
il s'agit d'essayer de faire une programmation qui se tienne et qui fasse un sens pour les personnes qui visitent l'exposition et qui aboutissent à la salle de concert.
Et justement, peut-être quels seront les thèmes qui seront abordés, Pierre-Laurent?
Alors, ce que j'ai souhaité, c'est rendre sensible cette passion des avant-gardes françaises de l'époque qu'avait Tchoukine et le choc que ça a pu créer à Moscou, puisqu'il a ouvert ses portes auprès des artistes en Russie. Alors, il n'y a aucune correspondance directe. Donc, j'ai bâti les choses d'une autre façon. Elles s'articulent essentiellement autour de du couple Debussy-Ravel, puisque eux, étant tellement renouvelés dans leur inspiration et dans leur langage, montrent la complexité des courants artistiques de cette époque. Et dans chaque concert, il y a un reflet des avant-gardes russes de l'époque, qui sont elles aussi extrêmement multiples, mais qui vont de l'avant d'une façon ébouriffante.
Vous ne serez pas seul, Pierre-Laurent Aymard, durant ce week-end. Je vous propose d'écouter 8h45, quelques notes jouées par Tamara Stefanovic, l'une des études tableaux en ré majeur de Serge Rachmaninov.
Thank you.
Et on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, c'est Ligeti. Ici.
Ligeti. Voilà.
Mais c'est la bonne pianiste, Tamara Stefanovic. C'est d'elle dont je voulais que vous nous parliez. C'est une de vos anciennes élèves. Vous avez déjà collaboré avec elle, notamment à la Philharmonie de Paris, il n'y a pas longtemps.
Ma partenaire de duo.
Vous avez fait appel à d'autres pianistes aussi pour ce week-end-ci. Il y aura Nedat Lecic, Lorenzo Soules et Fabien Müller.
Voilà.
Parce quatre jeunes pianistes à vos côtés.
Voilà, parce que Debussy et Ravel, ce sont, enfin, pour eux, ils étaient tous les deux pianistes et tous les deux des maîtres d'orchestration. Donc, le piano, a joué un rôle très particulier, dans leur production, et ils ont employé, du reste, un piano, deux pianos, des pianos quatre mains, etc. Donc, ce que j'ai proposé, c'est d'avoir un ensemble de pianistes de différentes générations, et qui permettent de refléter la richesse du rôle de cet instrument pour à cette époque, du reste, en général. Puisque c'était une époque où on faisait tellement d'explorations, tellement d'expériences, et en même temps, c'était un monde de synthèse, un peu. Donc c'était l'instrument idéal pour cette époque.
Finalement, on est aussi un petit peu dans une optique de transmission, Pierre-Laurent Aimard.
Tout à fait, puisque la Fondation est très soucieuse de pédagogie, alors je me suis dit, eh bien, je vais leur proposer d'écouter d'anciens étudiants ou des étudiants actuels remarquables, qui sont chacun, je crois, un artiste de grande valeur. Oui, pour avoir un groupe qui reflète de différentes générations dans l'approche du piano.
Interpréter et enseigner, finalement, c'est assez complémentaire pour vous, Pierre-Laurent Aimard.
Oui, la pédagogie doit être au cœur de tout dans notre société, et je trouve qu'elle nous apprend toujours, notamment à vieillir moins vite.
Et puis, il faut laisser place aussi à l'intuition, à ce côté-là. Enseigner, mais
oui, c'est-à-dire
laisser une part de liberté.
Mais je crois qu'on essaye de débloquer, de révéler leurs intuitions aux jeunes et on leur apprend de travailler sur elles. C'est-à-dire, il faut que le travail n'étouffe pas les intuitions, mais qu'il les canalise et qu'il les développe. Je crois que dans ce type de discipline, c'est vraiment la clé.
Qu'est-ce qu'on pourra entendre au cours de ces trois jours, Pierre-Laurent Aimard ?
Alors, comme je vous le disais, des confrontations entre des avant-gardes disons française et russe de l'époque ou de Moscou, surtout de Saint-Pétersbourg. Par exemple, le programme que je donnerai samedi est une espèce de feu d'artifice d'avant-garde de l'époque qui montre l'extraordinaire différence de langage qui a explosé en quelques années de temps. Et il y aura des œuvres du jeune Prokofiev, du dernier Scriabin, du très créatif Roslavets, de Honegger, de Stravinsky, du décapant Stravinsky, du dernier Debussy et de Obuoff, qui était ce coloriste vraiment subjugant, qui dans la descendance de Scriabine a créé un monde de couleurs d'une nouveauté inouïe avant d'émigrer pour Paris et d'être adoubé par Ravel.
On va écouter à 8h50 quelques notes des images de Claude Debussy, l'hommage à Rameau, sous votre voix, Pierre-Laurent Aimard.
Thank you.
Hommage à Rameau, l'une des images de Claude Debussy interprétée par Pierre Laurent Aymard. Je rappelle cet événement à la Fondation Louis Vuitton à Paris. 6 concerts commentés à midi à 15h, c'est vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 février. Et puis 2 grands concerts à 20h30 aussi. Avec vous, Pierre Laurent Aymard, et puis aussi d'autres excellents pianistes, Tamara Stefanovic, Nenad Lecic, Lorenzo Soules et Fabien Müller. Alors, difficile de résumer hein, tous les programmes des concerts qui seront donnés ce week-end, mais je vous invite à faire un tour sur le site internet de la Fondation Vuitton pour en avoir tous les détails. Merci, Pierre Laurent Aymard, d'avoir été des nôtres ce matin.
Merci à vous.
Et puis, bon week-end de concert et à très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.